Bonjour. Je vais vous introduire ces conférences avec une question qui est un peu marginale peut-être par rapport à l'intitulé même de ce colloque sur l'avenir du futur. Mon propos sera plus archéologique. Loin d'être définitif, il est le fruit de notes que j'ai pu prendre au fil de mes recherches au moment où je préparais cette exposition que vous pouvez voir en ce moment au Centre Pompidou au 6e étage. Et la question principale qui m'a arrêté, nous célébrons, ça a été dit, le 100e anniversaire de la publication du Manifeste du futurisme, qui est aussi la date de naissance des avant-gardes du XXe siècle. Pourquoi ce mouvement est-il si important au regard de l'ensemble des avant-gardes de ce siècle écoulé? C'est que là où il y a avant-garde, et c'est pour ça que ce futurisme apparaît comme un moment fondateur, il y a cette affirmation inédite avant l'expression qu'en fait Marinetti, d'une opposition passée. Et j'ai essayé, et c'est ce que je vais vous donner comme information, que j'ai pu glaner dans différentes lectures, de retrouver où Marinetti avait-il pu trouver cette idée de rupture radicale avec le passé. Des manifestes artistiques, il y en a eu de nombreux, des manifestes politiques, il y en a eu d'autres également, des manifestes artistiques qui reprenait une rhétorique qui appartenait au champ politique, c'était déjà plus rare et même inédit dans le cas de ce futurisme. Donc je vais commencer par quelques citations qui vont vous montrer à quel point le futurisme est un mouvement fondateur et à quel point sa postérité est considérable dans le XXe siècle. Pour ce qui est du cubisme, une citation de Pierre Reverdy. « En art, le premier soin d'un fils est de renier son père. » Après le cubisme, dans l'enchaînement des très nombreuses avant-gardes du XXe siècle, on va trouver le dadaïsme avec une citation de Tristan Tzara. « Je ne veux même pas savoir s'il y a eu des hommes avant moi. » Après, quelques temps après, un ou deux ans après la fondation du dadaïsme, Malevitch, un artiste russe dont vous pouvez voir des toiles dans l'exposition, fonde le suprématisme. Et voilà ce qu'il déclare. « Nous ne pouvons pas enfermer un sens nouveau dans les catacombes des objets du passé. » Après cette Première Guerre mondiale, le mouvement d'avant-garde qui va à nouveau se saisir des arguments et de la radicalité qui était celle du futurisme, du premier futurisme, ce sera le surréalisme. Et voici une citation d'André Breton. « En matière de révolte, aucun de nous ne doit avoir besoin d'ancêtres. » Et après, pour continuer cette cavalcade rapide parmi les avant-gardes du XXe siècle, le début des années 60 en France voit l'apparition d'une avant-garde qui est le nouveau réalisme, dont le théoricien et le critique est Pierre Restany, et une citation de Pierre Restany, « À un monde nouveau correspond un homme nouveau ». Du dadaïsme au nouveau réalisme, la rupture avec le passé, l'affirmation d'un individualisme farouche, prométhéen, se sont imposées comme fondement rhétorique de l'avant-garde artistique. La première expression historique de ces principes peut-être précisément daté du 20 février 1909, jour de publication du Manifeste du futurisme à la une du Figaro. Aussi variées qu'elles aient pu être, les réactions au Manifeste du futurisme convergent dans une condamnation commune de sa négation du passé et de son héritage. L'appel de Marinetti à, je le cite, « démolir les musées, les bibliothèques » conduit Frédéric Mistral à ne voir dans le futurisme qu'une variante du vandalisme. C'est le terme qu'il emploie et c'est grosso modo, la caractéristique qui va être donnée, prêtée à ce futurisme par la critique française à l'époque. La riposte la plus conséquente aux outrances de Marinetti prend la forme d'un contre-manifeste publié à l'été 1909 par la revue toulousaine Poésie. Elle publie son manifeste du primitivisme qui prône le culte du souvenir, invite à l'admiration d'une beauté éternelle. L'anti-tradition futuriste de 1913, manifeste de ralliement au futurisme que publie Guillaume Apollinaire, résume par son titre les enjeux historiques du mouvement fondé par Marinetti, un iconoclasme antipasséiste dont l'origine se perd dans la généalogie de l'avant-garde. Avant d'endosser les hardes de la bohème, l'avant-garde portait l'uniforme militaire. Elle désignait, je cite la définition qui en est donnée dans Le Robert, la partie d'une armée qui marche en avant du gros des troupes. C'est avec l'apparition des utopies sociales que ce n'est plus l'espace des stratèges militaires dont l'avant-garde anticipe la conquête, mais le temps, celui d'un futur qu'elle a désormais pour mission d'annoncer. la mutation d'un objectif topologique en un autre chronologique supposait qu'une nouvelle flèche du temps se fiche au cœur de la raison occidentale. Ces archers en furent les encyclopédistes, pour lesquels l'essor des techniques et du machinisme engageait les sociétés modernes sur la voie d'un irrésistible progrès, dont l'origine latine, progressus, désigne la marche en avant. C'est avec les Lumières, précisément, avec Mirabeau, en 1757, que le terme acquiert le sens qu'on lui connaît aujourd'hui. Ainsi, le temps s'est-il mis en mouvement, désignant le futur comme seul horizon des actions humaines. C'est à Claude-Henri de Saint-Simon, dont on voit ici une image, que revient d'opérer la fusion entre le monde de l'art et les avant-gardes sociales. Précurseur de la philosophie positive et de la science sociale, il prend acte de l'effondrement de l'Ancien Régime au profit d'une société dont les valeurs sont déterminées par le développement industriel. Ses opinions littéraires, philosophiques et industrielles, publiées en 1825, annoncent une pensée socialiste que développeront ses disciples, les Saint-Simoniens, parmi eux Enfantin, Leroux, Bazard. Les analyses de Saint-Simon reposent sur un constat qu'existe une force déterminant l'évolution de la société, agissant sur ses choix et ses orientations. Il attribue à une perversion de cette force les maux de la société. Je cite Saint-Simon. « La source première du mal est sans contredit dans la direction fausse qu'imprime à la société la force chargée du besoin, du soin d'en gérer les intérêts matériels et moraux. Pour éviter de tels errements, Saint-Simon souhaite transférer la gestion de cette force à ceux qu'il considère comme les seuls acteurs légitimes du progrès social. » Je le cite à nouveau, « Nous tâcherons d'indiquer aux savants et aux artistes comment ils doivent combiner leurs connaissances et leurs sentiments dans l'intérêt de l'utilité commune. Cette utilité commune est la création d'une société harmonieuse promise dans le futur. » Nouvelle citation de Saint-Simon, « L'âge d'or » qu'une aveugle tradition a placé jusqu'ici dans le passé et devant nous. L'avenir se montre aux yeux des peuples, non plus comme un écueil, mais comme un port. Pour que les artistes puissent jouer le rôle qui leur incombe, comme prophètes du futur, Saint-Simon leur enjoint de se détourner d'une tradition sclérosante. Je le cite à nouveau. « Les artistes ne portaient jamais leurs yeux qu'en arrière. Ils ne puisaient leur inspiration que dans le passé. » Il ne disait rien pour le pauvre, rien pour l'affligé. Il ne montrait point de but au travail de l'homme. Ainsi grandissaient les nations, ne s'apercevant pas de leur progrès et perpétuant cette grande erreur qu'elles s'éloignaient du bien à mesure qu'elles s'avançaient dans l'avenir. Confiant de pouvoir assumer la mission que l'utopie politique lui confie, l'artiste, dans le dialogue que Saint-Simon imagine pour lui avec le savant et l'industriel, peut enfin déclarer, je cite, « C'est nous, artistes, qui vous serviront d'avant-garde. La puissance des arts est en effet la plus immédiate et la plus rapide. » La conception élitiste de l'ordre social, son sens aigu d'une temporalité orientée vers le futur, son programme d'oubli du passé, font de Claude-Henri de Saint-Simon l'inventeur de l'avant-garde artistique. Dans les pas de Saint-Simon, les utopistes de tout poil n'ont eu dès lors de cesse d'enrôler les artistes au service de leur cause. Le fouriériste Laverdant s'interroge sur la mission de l'art, sur le rôle de l'artiste. C'est le titre de l'ouvrage qu'il publie en 1848, « La mission de l'art, du rôle des artistes ». Dès son introduction, Laverdant affirme que, je le cite, « l'art, expression de la société, exprime dans son essor le plus élevé, les tendances sociales les plus avancées. Il est précurseur et révélateur. » Après Saint-Simon, le fouriérisme croit au rôle qu'une élite de l'esprit est amenée à jouer dans l'éducation du corps social. Conformément à l'hédonisme qui régit la société que Saint-Simon appelle de ses vœux, Laverdant veut faire de l'art le chantre des deux mobiles qui fondent pour lui l'activité humaine, le besoin et le plaisir. L'année où Laverdant rédige son traité, le manifeste fondateur du communisme proclame au nom de son égalitarisme une remise en cause de l'avant-garde. Laverdant conteste ce communisme dont il dénonce, je le cite, « le principe de l'égalité qui contient un germe de mort pour l'art ». Sa remarque souligne un clivage appelé à avoir de lourdes conséquences, tant historiques qu'idéologiques. Au milieu des années 20, Léon Trotsky s'interrogera à son tour sur le rôle politique de l'avant-garde. Il verra en elle la manifestation d'un sectarisme utopique. En accord avec un communisme qui condamne l'individualisme consubstantiel à la notion d'avant-garde, Pierre-Joseph Proudhon constate que les artistes, je le cite, forment une classe à part, impérieuse par l'idéal, mais inférieure par la raison et la moralité. Ils ont des prétentions très hautes au génie, à la gloire. Distingués, élégants, sensuels, cupides, capricieux, vaniteux, avides d'éloges et de récompenses, ils appartiennent à qui les flatte et les paie, et sont plus souvent les auxiliaires de la corruption que de la régénération. Ils n'ont jamais su trouver eux-mêmes leur chemin. Ce sont les révolutions qui leur montrent. Si Michel Bakounine écrit bien dans ses Confessions que la mission des anarchistes est, je le cite, « de détruire et non pas de construire », il revendique son admiration du grand art, sa vénération pour les œuvres du passé. Après lui, un autre anarchiste, Pierre Kropotkin, oppose audace politique et conservatisme esthétique. S'il consent que l'art doit, je le cite, « porter ses recherches en avant », il reconnaît aussi, je le cite également, « sans quelques rares, très rares exceptions, l'artiste de profession reste trop ignorant, trop bourgeois, pour entretenir les horizons nouveaux ». Aux audaces de l'avant-garde, à la gratuité de l'art pour l'art, Kropotkin préfère l'anonymat médiéval de l'artiste, dont il trouve le modèle dans les principes édictés par William Morris. Les penseurs anarchistes font aux avant-gardes le procès d'entretenir le modèle d'une stratification sociale qu'ils combattent. Plus fondamentalement encore, ils reprochent à l'art lui-même de contribuer à l'aliénation propre aux sociétés modernes. Prônant le retour de l'abstraction à la vie, Bakounine assigne à l'anarchie de lutter contre la dépossession du sens de la vie occasionnée par le développement du capitalisme et de l'industrie. Un tel programme conduit le théoricien russe à imaginer un art de l'action dans lequel ses exégètes voient l'annonce des happenings et autres formes de performance. Dans ses souvenirs, intitulés « Ma vie », Richard Wagner écrit que Bakounine, je cite Wagner, « ne cherchait plus les intellectuels. Ce qu'il voulait, c'était des natures énergiques et prêtes à l'action. » Cette définition élargie de l'art constitue le legs le plus précieux de la pensée anarchiste au programme des avant-gardes et au futurisme en particulier. Citation du manifeste fondateur du futurisme de Marinetti. « Nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle, le coup de poing. » Ici, vous voyez un tableau de Cara qui figure dans l'exposition, qui, comme d'autres tableaux de l'exposition, témoigne sans aucune ambiguïté des sympathies politiques de la plupart des futuristes qui constituent ce premier futurisme, qui allait évidemment du côté de l'anarchie. Le projet anarchiste visant à inscrire l'art dans la vie lègue à Marinetti un soupçon durable à l'endroit des formes figées de l'œuvre. Il le conduit à vouloir étendre le champ d'intervention du futurisme du côté de la mode vestimentaire, de la cuisine, de la sexualité, de la politique. Les manifestes présents dans l'exposition, qui ponctuent le parcours de la visite, témoignent de cette diversité du champ d'action du futurisme que lui a signé Marinetti et, après lui, la plupart des auteurs des manifestes. En mai 1911, ce même soupçon conduit Marinetti à organiser dans une usine désaffectée une exposition d'art libre, c'est le titre qu'il donne à la manifestation, où sont présentées sans distinction œuvres d'artistes d'avant-garde, de peintres amateurs, d'enfants, visant à montrer, c'est Marinetti qui parle, que le sens artistique, considéré comme un privilège de quelques-uns, est inné dans la nature humaine et que ses formes expressives correspondent simplement à la plus grande sensibilité de celui qui les concrétise. L'anarchie est bien le creuset théorique et pratique de l'activisme futuriste. Le premier recueil de poésie de Marinetti, « La conquête des étoiles », publié en 1902, recourt à ce vers libre que la critique de l'époque associe aux valeurs de l'anarchie. Introduit par Gustave Kahn dans les cénacles littéraires parisiens, Marinetti collabore à la Revue Blanche que dirige Félix Fénéon et qui compte alors de nombreux collaborateurs libertaires. En 1902, dans ce recueil de poèmes, Marinetti publie le poème « Destruction » qui transpose dans l'univers poétique l'appel anarchiste à la tabula rasa. Je cite ce poème de Marinetti. « Détruisons, détruisons, détruisons. Puisqu'il n'est de splendeur que ce verbe effroyable et fracassant comme un marteau cyclopéen, détruisons, détruisons, détruisons. Quand tout sera détruit, oh, plus ne nous donnons la peine de rebâtir les fabuleux échafaudages d'un grand monde idéal sur les ruines de l'ancien. Quoi que nous rêvions, nous n'enfantons que haine. La main de l'homme ne sait construire que des cachots et forger des chaînes. » L'inventaire des emprunts du premier futurisme à l'anarchie serait presque fastidieux. Le manifeste est pétri de la rhétorique antipasséiste, des injonctions à l'action concrète, caractéristiques des écrits anarchistes. L'antiromantisme, qui conduit Marinetti à vouloir tuer le clair de lune, c'est un manifeste qu'il publie en même temps que le manifeste fondateur du futurisme en 1909, fait écho au propos d'un Bakounine déclarant que l'école romantique, je cite Bakounine, « ne supportait pas le grand jour, le clair-obscur étant le seul élément où elle put vivre, qu'elle ne supportait pas le contact brutal des masses, qu'elle avait la politique, les questions du jour en horreur et en mépris. » Les phrases coup de poing que Marinetti souhaitait être aussi explosives que les bombes anarchistes, les tracts de couleur vive qui feront le succès et assureront la diffusion des idées futuristes sont les mêmes que ceux de l'activisme libertaire. En 1912, dans un discours donné à la Maison des étudiants, Marinetti pouvait déclarer « Le pétrole et la dynamite n'appartiennent pas exclusivement à la politique. Ils pourront aussi nous débarrasser un jour de la tyrannie des gloires du passé artistique. » La présence de l'ancien poseur de bombes, Bakounine, la présence de l'ancien poseur de bombes, du chroniqueur des revues anarchistes Félix Fénéon, à la tête de la galerie Bernheim Jeune, n'est pas indifférent à l'accueil de l'exposition des peintres futuristes à Paris en 1912. Les sympathies anarchistes du futurisme italien s'étalent sans ambiguïté sur les 6 messes de la galerie Bernheim. Cara y expose ses funérailles de l'anarchiste Galli, on a vu le tableau tout à l'heure. Russolo y montre une émeute, Boccioni une rixe, aujourd'hui disparue. La popularité des idées anarchistes dans les cercles que fréquentait Marinetti était telle qu'il n'avait nul besoin de cultiver la nostalgie d'une enfance passée dans une maison dont les terrasses donnaient sur les vestiges de l'ancienne bibliothèque d'Alexandrie pour penser à bouter le feu aux bibliothèques. Son innovation radicale aura consisté à transposer dans le domaine esthétique une rhétorique des valeurs que la théorie libertaire cantonnait à son discours politique. En 1920, dans le second temps du futurisme, Marinetti reconnaîtra cette dette. Je le cite. « La seule idéologie politique omniprésente ou récurrente dans l'avant-garde, c'est la moins politique et la plus antipolitique de toutes. C'est la libertaire et l'anarchiste dont on constate la présence dès le début. » Matrice théorique du premier futurisme, l'anarchie constitue bien la référence idéologique de l'avant-garde artistique. Quelques images ici, le journal de Ravachol, au titre évidemment emblématique, qui renvoie à cette campagne terroriste qui frappe la France à la fin du XIXe siècle. Ici, une représentation de l'attentat au restaurant Foyot, dont la bombe avait été attribuée à Fénéon lui-même. Et ici, un des attentats à la chambre qui déclenche cette vague de terreur anarchiste donc dans les années 90, au début des années 90. Matrice théorique donc du premier futurisme, l'anarchie constitue bien la référence idéologique de l'avant-garde artistique. L'histoire du surréalisme est sur ce point exemplaire. Né du nihilisme dadaïste, le mouvement reconnaît tardivement ses affinités avec la pensée libertaire. Entre ces deux moments, le surréalisme aura voulu croire à la compatibilité entre avant-garde et communisme. C'était négliger les écrits bolcheviques de Léon Trotsky, qui, en 1924, dénonçait un futurisme parangon de l'avant-garde, dans lequel il voyait une manifestation, je le cite, « du nihilisme de la bohème, une forme de maladie infantile du gauchisme ». Comme il en avait été pour les conservateurs français 16 ans plus tôt, l'opposition du futurisme au passé était pour Trotsky rédhibitoire. Je cite Trotsky, toujours dans ce texte de 1924. « Nous, marxistes, vivons avec les traditions et ne cessons pas pour cela d'être révolutionnaires. Nous avons étudié et gardé vivantes les traditions de la Commune de Paris dès avant notre première révolution. Puis, les traditions de 1905 s'y sont ajoutées, desquelles nous nous sommes nourris, préparant la seconde révolution. Remontons plus loin, nous avons relié la Commune aux journées de juin 1848 et à la Grande Révolution française. Pour nous, la révolution incarnait la tradition familière assimilée. » Revenu de la dogmatique bolchévique, Trotsky opère à la fin des années 30 une volte-face théorique à même de nous éclairer sur les liens essentiels de l'avant-garde avec l'anarchie. En 1938, il co-signe avec André Breton le manifeste intitulé « Pour un art révolutionnaire indépendant ». On peut y lire, je cite, « L'art ne peut consentir sans déchéance à se plier à aucune directive étrangère et à venir docilement remplir les cadres que certains croient pouvoir lui assigner à des fins pragmatiques extrêmement courtes. Et un peu plus loin, autre citation de Trotsky, « Si pour le développement des forces productives matérielles, la révolution est tenue d'ériger un système socialiste de plan centralisé, pour la création intellectuelle, elle doit, dès le début même, établir et assurer un régime anarchiste de liberté intellectuelle. » Après la Seconde Guerre mondiale, l'évolution politique du surréalisme confirme que cette liberté intellectuelle favorable à l'essor de l'avant-garde fleurit bien à l'ombre du drapeau noir de l'anarchie. D'octobre 1951 à janvier 1953, le Libertaire publie une série de billets surréalistes. Cette évolution n'est qu'un ressourcement dans les idéaux que le surréalisme avait hérité de Dada. Le premier numéro de la Révolution surréaliste du 1er décembre 1924 reproduit un photomontage, celui que vous avez à l'écran, présentant les membres du groupe rassemblés autour de Germaine Breton, une militante anarchiste qui venait d'assassiner d'un coup de revolver le camelot du roi, Marius Plateau, secrétaire de rédaction de l'Action française. Les appels anarchistes à l'action directe ont un écho durable dans les textes surréalistes. Le plus spectaculaire d'entre eux restant, je le cite, « l'acte surréaliste le plus simple » qui consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. C'est une phrase extraite du second manifeste du futurisme, publié par André Breton en 1929. Un geste dans la tradition des actions anarchistes signe la rupture du flirt prolongé des surréalistes avec le stalinisme. Répondant à l'appel de Marinetti à distribuer gifles et coups de poing, André Breton administre une paire de claques à Ilya Ehrenburg, représentant officiel de l'URSS au Congrès pour la liberté et la culture. L'évolution qui conduit le surréalisme du stalinisme à l'anarchie passe par la redécouverte par André Breton de l'œuvre de Charles Fourier. Pendant son exil américain en 1945, il rédige son ode à Fourier. Ressourçant le surréalisme dans l'esprit des précurseurs du socialisme utopique, Breton renoue avec ce creuset théorique, historique de l'avant-garde. Voilà, je vous remercie. C'était, je vous l'ai dit, assez court et plutôt des notes juxtaposées, mais c'était pour introduire cette idée et cette lancée dans le futur que le futurisme a voulu de façon aussi volontariste. Merci. Bien sûr.
Attends.
Je ne suis pas du tout un spécialiste, hein, mais vous présentez le futurisme comme anarchiste, mais en, je crois qu'en 1925, Marinetti a écrit un texte Futurisme et fascisme. Et on a tous un peu en tête quand même des relations entre le futurisme et le fascisme.
Alors,
ça ne devait pas être certainement du goût d'André Breton.
Bien sûr. Alors c'est là tout l'enjeu, la question que vous posez est un des enjeux essentiels de l'exposition qui se tient en ce moment au sixième étage, au centre. Vous l'avez noté, le titre de l'exposition s'appelle « Le futurisme à Paris ». J'ai l'impression que beaucoup ont oublié ce titre-là dans le regard qu'il porte sur cette exposition. Ça n'est pas une exposition consacrée au futurisme, ni dans ses sources, ni dans ses développements historiques. Il s'agit ici d'une étude d'histoire de l'art, je précise, qui s'attache au premier futurisme, à la fondation du futurisme, c'est-à-dire à un mouvement qui éclot en 1909 avec le manifeste de Marinetti et qui va prendre fin, c'est la dernière date que l'on voit apparaître dans l'exposition, autour de 1915, c'est-à-dire au moment où Boccioni, qui était l'âme de ce premier futuriste, meurt dans les conflits de la Première Guerre mondiale. Ce premier futurisme, évidemment, vu les dates considérées, 1909-1915, je crois ne peut pas être suspect d'avoir des sympathies pour le fascisme italien, qui apparaîtra de façon d'abord théorique avec Mussolini en 1919 et qui prendra une forme politique autour de 1920-21. Donc, déjà, première réponse. Les artistes qui sont dans l'exposition sont des artistes, donc Boccioni meurt en 1915, Severini vit à Paris depuis 1906, ne reviendra pratiquement plus en Italie et sera totalement étranger au débat politique de l'Italie fasciste d'après la Première Guerre mondiale. Russolo, qui figure dans l'exposition, va rompre avec Marinetti et le futurisme au moment où Marinetti va lui vouloir se rapprocher du fascisme. Le seul qui, parmi les quatre artistes présents dans l'exposition, va avoir des sympathies ouverte avérée pour le fascisme sera Carra, mais il le fera sur un mode qui est celui de son reniement au futurisme, puisqu'il ralliera le fascisme, en fait, son esthétique officielle, qui est celle du Novecento, une esthétique prônée par Margherita Sarfatti à partir de 1920 et qui prône le retour de l'art italien aux sources latines. Donc, voilà la réponse à cette question. Considérons ce qu'est véritablement cette exposition, qui sert aussi peut-être à lever un certain soupçon sur ce premier futurisme, qu'il serait, convenez-en, mais on peut en débattre, sans doute profondément injuste de disqualifier au nom d'une génération qui va suivre celle de ces artistes présentés, qui ne les concerne en tout cas en aucun cas, surtout dans l'époque qui nous intéresse.
Cependant, par exemple, il y a une femme française qui se présente un peu comme peut-être féministe, hein, qui écrit un texte où carrément elle dit qu'il faut libérer la virilité des soldats, hein, qui peuvent violer les femmes, etc. Donc quand même, déjà, on sent dans cette essence un esprit très, très fascisant.
Alors là aussi, sur ces fascisants, là aussi, regardons deux procès qui pourraient peut-être être faits à la rhétorique de Marinetti, rappelant aussi un fait que je ne cesse de rappeler dans les présentations de l'exposition, le manifeste de 1909 est le manifeste d'un homme seul, d'un poète, qui est Marinetti. Il vient d'une tradition, on l'a vu, qui est celle de l'invective et de la rhétorique libertaire. Lorsqu'en 1910 se constitue le groupe des peintres futuristes, ce qui va être la forme visible de cette avant-garde futuriste, on ne retrouve absolument plus cette rhétorique précisément qui fait l'apologie du militarisme, qui fait l'apologie de la virilité et de la violence. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut considérer. En ce qui concerne cette apologie de la guerre par Marinetti, c'est dans le manifeste, on peut l'entendre, on peut le lire dans l'exposition, « Nous célébrons la guerre, nouvelle hygiène du monde ». Regardez quelle est la fin, la chute de cette même phrase. Ça finit par une revendication de la table rase anarchiste. Juste nuance. L'autre chose, c'est militarisme, cette exaltation des forces viriles, ce fantasme d'une régénération de la société par l'exaltation de la violence. C'est la pensée la plus commune des intellectuels quasi partout en Europe à cette fin du XIXe siècle. Ça, c'est précisément une lecture du nietzschéisme qui constitue vraiment le fond commun de ces intellectuels de l'époque. Regardez Apollinaire qui, lorsqu'il va aller à la guerre, fera des poèmes que la guerre est jolie. Voyez Fernand Léger qui s'extasiera devant la culasse de 75. Voyez ce qu'on regardait dans l'exposition précédente du Centre Pompidou, un tableau de Autodix qui va devenir un des leaders du spartakisme allemand qui, en 1915, au moment où il s'engage dans la Première Guerre mondiale, se représente en dieu Mars. C'est-à-dire, c'est vraiment faire à Marinetti exclusivement ce reproche, je crois que c'est encore une fois historiquement déplacé. L'histoire de cette femme, là je trouve c'est Valentine de Saint-Point à laquelle vous faites référence, qui est une des ralliées, des converties françaises au futurisme, est une militante qui annonce dans sa rhétorique tout à fait certaines revendications qui vont devenir celles du féminisme. Là aussi ça permet de dédouaner ou pour le moins de relativiser un reproche récurrent adressé au futurisme qui est celui de sa supposée misogynie. Le futurisme, et là des études que je peux vous, pour lesquelles je peux vous donner des références facilement, des études menées par des adeptes des gender studies américaines, par des militantes féministes américaines, démontrent que le futurisme est le mouvement sans doute le plus ouvert à une féminité rénovée, c'est-à-dire pas celle du romantisme attardé que dénonce Marinetti, mais celle qu'on voit dans les tableaux de Boccioni, par exemple, celle qu'exalte Valentine de Saint-Point, c'est-à-dire une femme, oui, virile peut-être, ce qui voulait dire à l'époque une femme moderne, émancipée. Donc, pas mal de choses, effectivement, qui courent sur le futurisme et que, j'espère, l'exposition va permettre d'élucider. Il n'est pas du tout question de dédouaner Marinetti de son engagement, effectivement. Là aussi, on pourrait en parler parce que c'est une histoire beaucoup plus complexe que celle qui veut bien l'anathémiser a priori, comme on peut le faire ici. Mais la vraie question problématique, réellement problématique, c'est qu'en est-il, alors là je laisse ça plutôt aux philosophes, qu'en est-il de cette radicalité des avant-gardes qui s'exacerbe précisément au moment du futurisme et qui peut, c'est vrai, trouver certains points de convergence avec des idéologies qui vont s'orienter vers le totalitarisme.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à l'intervention de Bruno Latour.